Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, une nouvelle médaille pour la France, je dirais même une nouvelle médaille pour Quentin Fillon-Maillet qui porte son total à 3 dans ces Jeux Olympiques de Pékin avec l'argent sur le sprint. Nous reviendrons dans l'heure olympique sur cette performance avec notre consultante Florence Bavrel. Mais pour débuter, nous évoquerons les débuts de Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis en danse sur glace. Notre consultant Alban Préaubert est là pour analyser leur passage en danse rythmique et ce record du monde battu. Et puis il sera temps de se pencher sur dimanche avec une journée chargée à venir. En plus des poursuites hommes et femmes en biathlon, nous analyserons les chances des Français sur le slalom géant. Je suis Adrien Yo et pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Vergne et Simon Farvac sont à mes côtés. Salut à tous.
Salut.
Salut.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti. Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis étaient attendus pour leur début dans l'épreuve de danse sur glace. Ils n'ont pas déçu en prenant la première place et en battant leur propre record du monde. Notre consultant Alban Préaubert a commenté leur passage sur Eurosport. Alban, les Français déjà médaillés en argent à Pyeongchang ont réussi un super passage sur la danse rythmique. Le premier des deux passages pour cette épreuve.
Ouais, on s'est vraiment régalé avec eux. Hein. Ils ont sorti le programme qu'il fallait, hein, le jour J. Et c'est vrai qu'on connaissait toutes les qualités de leur danse rythmique hein, sur des thèmes de rue, le thème urbain. Et voilà, avec un peu de hip-hop, la musique de John Legend et le style de danse du walking qui leur va vraiment à merveille. Ils ont patiné sans faute, vraiment une exécution parfaite. Et ça leur permet de prendre la tête, de battre ce record du monde à nouveau et surtout de commencer à creuser un petit écart face à leurs concurrents principaux, les Russes Simitina Katsalapov, mais également les Américains Hubble Donohue et Chuck Bates. Donc voilà, tout pour l'instant est vraiment très très bien parti pour aller chercher cet or olympique qui leur manque tant, la seule médaille qui leur manque vraiment à leur palmarès. Et voilà, on est très confiant pour le programme libre maintenant, lundi matin. Ouais. Il va falloir confirmer évidemment, mais c'est bien parti.
Tu as dit un mot, le walking, l'inspiration pour leur danse. Explique-nous ce que c'est exactement.
Alors effectivement, c'est un style de danse hein, qui est né dans les clubs gays américains il y a quelques décennies. C'est le chorégraphe, leur équipe d'entraîneurs et de chorégraphes autour de Romain Hagenauer, notamment le français Romain Hagenauer, accompagné de Marie-France Dubreuil et Patrice Lezon dans la célèbre Académie de Montréal. Hein, ils ont vraiment une très grosse structure d'entraînement autour d'eux. Et donc, c'est leurs entraîneurs qui leur ont suggéré d'interpréter ce style de danse très original, très contemporain. Ça leur va vraiment à merveille, avec des mouvements très saccadés et différents. C'est la première fois qu'on voit du walking interprété sur la glace. Et voilà, je pense qu'ils vont inspirer pas mal de gens dans les années à venir parce qu'on sait que Gabriella et Guillaume lancent les tendances. Très souvent, les couples essayent de les imiter, n'arrivent jamais à les égaler, c'est sûr, mais en tout cas, essayent de les imiter. Et c'était très efficace et bon, je pense qu'ils ont vraiment frappé un grand coup aujourd'hui.
Est-ce qu'il y avait une part de risque à patiner sur ce type de danse qu'ils n'avaient jamais utilisé, en plus de le faire aux Jeux Olympiques? Ou est-ce que le patinage, je me souviens, moi, qui suis très vieux, qui ai connu les Duchesnais, les innovations n'étaient pas toujours très bien perçues en danse sur glace à l'époque. C'était une discipline qui était encore vraiment très engoncée dans des codes un peu anciens. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut s'aventurer comme ça sur ce genre de terrain?
Alors, c'est risqué quand même. Hein. C'est vrai que le jury reste parfois un peu conservateur, donc il faut vraiment être au niveau quand on propose des choses différentes, des choses un peu audacieuses, et c'est le cas évidemment de Gabriella et Guillaume. Il y a quand même un sport qui essaye de se moderniser hein, depuis 2014, notamment avec les paroles qui sont autorisées en patinage artistique. Alors c'était le cas avant dans sur glace, mais pas en patinage artistique. On sent quand même que l'ISU, la Fédération Internationale, pousse les patineurs à aller sur un peu plus d'audace. il fallait se réinventer parce que c'est vrai que le patinage artistique et la danse sur glace avaient énormément de succès dans les années 2000 et même avant avec la génération Candeloro, Bonali, etc. Et qu'on était en train de perdre une partie du public avec des costumes parfois un peu ringards, des musiques systématiquement classiques. Là, il y a vraiment de l'innovation dans les choix chorégraphiques, dans les choix musicaux, et ça fait du bien, je pense. On l'a vu aussi avec Nathan Chen, qui a remporté l'or olympique il y a quelques jours avec le Rocketman. Là aussi, avec une interprétation un peu hip-hop sur la fin, et donc disco, rock d'Elton John. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui évoluent, et tant mieux.
Ça évolue tranquillement encore, parce que si je peux me permettre, on a vu encore quand même quelques musiques qui étaient, on peut le dire, un peu datées, hein, des Backstreet Boys, du Elton John.
Tu m'as dit que tu t'étais régalé.
Moi, j'adore, mais c'est vrai que ça fait tout de suite un énorme écart quand Guillaume et Gabriel passent. Waouh, il y a de la modernité, il y a quelque chose qui est un vent de fraîcheur quand on les voit.
Oui, mais ça, ce n'était pas toujours bien perçu il y a 20 ou 30 ans, justement. Et quand on s'aventurait hors des sentiers battus, on était presque toujours, sinon sanctionné. En tout cas, c'était vraiment pas un avantage. Donc, c'est bien que ça ait quand même évolué là-dessus.
Et je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de mimétisme. Souvent, les patineurs essayent de copier les programmes qui ont gagné, qui sont capables de gagner. Donc, c'est pour ça que très souvent, on revoyait des Carmen, des Boléro, etc., parce que c'est des programmes qui avaient déjà gagné. Ouais. Là, le fait d'avoir des grands champions qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui arrivent à imposer un style un peu plus moderne, c'est très, très bon, parce que dans quelques années, on aura tout le monde qui osera se lancer sur des choses plus modernes. Et après, c'est très bien aussi de voir des grands programmes classiques. Des fois, il y a des merveilles avec des programmes classiques, de l'opéra aussi. Mais je pense que ce qui fait vraiment du bien à la compétition et au patinage, c'est de voir des styles très différents d'un patineur à l'autre. Et c'est ce qu'on a quand même pu avoir sur cette compétition, même si c'est vrai que certains programmes étaient un peu plus...
Old school.
Quelques programmes et quelques habits aussi, un peu old school.
Ah, oulala, vous avez vu le costume des Canadiens.
Des Canadiens, le costume orange. Mais il y a un côté quand
même... Tu l'as bien aimé.
Moi, j'aime bien Elton John, alors j'ai bien aimé ce petit côté un peu...
Pas de problème, je connais Paul Poirier, on pourra vous le ramener de Pékin, ce costume.
Super.
Pour une prochaine émission.
Alban, tu disais que tu étais très confiant avant le programme libre. Qu'est-ce qui pourrait concrètement empêcher aujourd'hui Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron d'être champion olympique? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leur programme libre? Est-ce que c'est quelque chose par rapport justement au côté très novateur de leur danse rythmique aujourd'hui?
Oui, alors seuls eux peuvent s'empêcher de remporter l'or. On sait qu'ils ont un standard de patinage qui est supérieur aux autres. On sait qu'ils ont de l'avance, 2 points d'avance, c'est pas rien quand même en patinage artistique, danse sur glace, 3,5 points même par rapport aux Américains, donc il y a un petit matelas. Donc voilà, si ils patinent leur libre à leur niveau, c'est dans la poche, c'est médaille d'or assurée. Après, attention, la glace glisse, la lame, c'est très fin, donc on n'est pas à l'abri d'erreurs. On l'a vu même chez des favoris, Chuck Bates ont eu un petit déséquilibre, les Américains, dans sur un élément technique. Donc ça peut rapidement coûter 3-4 points, et ces 3-4 points, si on les perd, forcément les Russes reviennent dans la course, les Américains aussi, Hubble de Neuilly, reviennent dans la course. Donc voilà, il va falloir rester concentré jusqu'au bout. Mais c'est vrai que Gabriela Guillaume, depuis des années, ils ont beaucoup d'expérience. Ils nous ont jamais déçus dans les grands événements. Ils ont fait une petite erreur lors des derniers nationaux, des championnats de France. Évidemment, c'était une erreur sans enjeu. Et finalement, tant mieux, parce que comme ça les met en alerte sur ce programme libre olympique. On les voit mal enchaîner une deuxième erreur d'affilée sur une deuxième compétition consécutive. Donc, voilà, j'étais très content, évidemment, et très confiant pour cette rhythm dance. Je le suis à nouveau sur le programme libre, mais ça ne m'empêchera pas de trembler avec eux lors de la deuxième épreuve lundi.
Ici, le risque de décompression est d'autant plus important, c'est qu'il y a 4 ans, c'était sur le programme court qui avait eu l'incident vestimentaire qui avait probablement coûté la médaille d'or. Aujourd'hui, il y avait un esprit revanchard, mais... il faut que la revanche ne soit accomplie qu'à 50% et qu'ils le gardent bien en tête.
Oui, je pense qu'ils l'ont quand même en tête. Ils savent aussi que cet écart de 2 points ne leur suffit pas hein, pour y aller vraiment les mains dans les poches hein, sur ce programme libre. Et historiquement, c'est vrai que la rythme dance était plutôt leur point faible. Ça les empêchait pas d'avoir gagné plein de rythme dance, hein, évidemment, mais généralement, les écarts qu'ils creusaient, c'était surtout sur le programme libre. Donc là, ils ont choisi un thème de Gabriel Fauré hein, pour le programme libre. On est plus dans du classique. Ouais, exactement. Donc, mais ce programme a déjà été testé hein, auprès du jury depuis le début de saison. On les a vus au Masters, sur leur Grand Prix, au Finlandia Trophy, aux championnats nationaux. Et à chaque fois, ça a été un vrai succès. C'est un programme qui a remporté l'adhésion. Même si c'est vrai que pour un public un peu plus jeune, c'est peut-être un programme qui marquera moins, mais qui met vraiment en valeur toute leur qualité esthétique, la pureté de leur ligne, la pureté de leur glisse. Et donc, voilà, s'ils exécutent comme ils savent si bien exécuter, c'est l'or.
Et, Guy, bon, justement, est-ce que ce n'est pas malin de faire un programme libre, peut-être qui tire un peu plus vers quelque chose d'assez classique, justement, quand on a fait une danse rythmique très novatrice, cette combinaison des deux, finalement, c'est peut-être la bonne formule, non ?
Oui, sûrement. Et c'est vrai que le panel technique et le jury a souvent tendance à récompenser quand même les patineurs qui arrivent à montrer plusieurs palettes hein, au cours d'une compétition. Et là, c'est le cas évidemment de Papadaki Cizeron avec des thèmes vraiment modernes. Ils ont vraiment joué le jeu des danses urbaines hein, sur cette rythme dance. Et en même temps, sur le libre, ils vont proposer quelque chose de complètement différent. Donc, je pense que le jury aura bien ça en tête quand il jugera le programme libre et saura récompenser justement la diversité des styles que peuvent nous offrir Gabriela et Guillaume.
Il y a une vraie tradition de la danse sur glace en France, oui. Au très très haut niveau. Hein. Évidemment, Papadaki Cizeron, il y a 20 ans, Anissina et Pesra étaient sacrés champions olympiques. J'ai parlé des Duchesnay qui étaient en argent il y a 30 ans. Il y a eu de Lobel-Schoenfelder, j'en oublie, je pense, encore quelques-uns. Mais il y a une permanence de la France au top niveau en danse sur glace. Pourquoi il y a cette espèce de tradition alors que dans d'autres épreuves, on a, je sais pas, les coupes, même si on en a eu, ou en individuel, on a plus de mal à être au top, top niveau?
Oui, bah, il y a, je pense, une école, c'est l'école lyonnaise. Elle est très, très fameuse à travers le monde hein, pour la danse sur glace. Elle avait été notamment créée par Muriel Boucher-Zazoui, qui avait été l'entraîneur de Marina Anissina et Gwendal Pesra, qui les avait menés au titre olympique il y a 20 ans. On va célébrer les 20 ans de ce titre olympique avec Marina au commentaire. On espère que du coup, Gabriela et Guillaume sauront prendre le relais brillamment. Mais c'est vrai que voilà, Muriel Boucher-Zazoui a formé Romain Eggener, qui maintenant est parti à Montréal exporter son savoir. Donc il y a comme ça toute une tradition. Elle a coaché Pécha Labourza, elle a coaché De Lobel-Schoenfelder, elle a coaché évidemment Gabriela Guillaume à un moment, même s'il faut quand même reconnaître aussi pour Gabriela Guillaume tout le travail réalisé par Catherine Papadakis, la maman de Gabriela à Clermont-Ferrand, c'est elle qui les a formés à la base. Mais donc voilà, il y a vraiment cette tradition à Lyon et maintenant qui a été aussi exportée à Montréal avec le savoir français sur la danse sur glace. On espère que derrière, on arrivera à continuer à avoir des belles générations parce que c'est vrai que c'est non-stop hein, depuis Moniot Lavanchy, Anissina Pesra, ouais. De Lobel-Schoenfelder, ça s'est enchaîné sans arrêt. Il n'y a pas eu de période creuse dans la danse sur glace. On a des jeunes patineurs prometteurs venant de Villard-de-Lans. Cette fois-ci, ça change un petit peu. Ce n'est plus l'école de Lyon maintenant, c'est Villard-de-Lans chez les juniors qui est très performant. Donc, on espère. Et puis, il y a aussi l'Opareva Brissot hein, qui sont entraînés par Roxane Pététain et Fabien Bourza, qui est l'ancien partenaire de Nathalie Péchala. Donc voilà, il y a de la relève. Je ne sais pas si Gabriela et Guillaume poursuivront sur un cycle olympique. On n'a pas encore toutes les informations. Je ne sais pas non plus si on aura un couple qui sera capable dans 4 ans de viser l'or, mais en tout cas, il y a quand même une relève qui est prometteuse et c'est vrai qu'on a une très belle école de danse sur glace en France.
Je peux poser une dernière question. Après, je te promets, Adrien, je m'arrête. En danse sur glace, on a eu un peu tous les cas de figure. Isabelle et Paul Duchesnay, c'était le frère et la sœur. Marina Anissina et Gwendal Pesra, c'était peut-être plus un mariage de raison, un mariage professionnel de danseurs. Le lien entre Papadakis et Cizeron, comment tu le définirais? Quel type de tandem c'est?
Oui, alors c'est une complicité qui est vraiment très forte. Hein. C'est rare d'avoir couple qui dure aussi longtemps. Ils ont démarré ensemble très jeunes à patiner à Clermont ensemble. Et c'est vrai que très souvent, on voit des recompositions de couples à l'âge de 18, 20 ans pour diverses raisons. Des fois, il y a la motivation qui ne suit pas chez l'un des deux partenaires. Des fois, le talent de l'un est vraiment supérieur à l'autre. On aurait pu penser que ce soit le cas à un moment où on avait l'impression que Guillaume, dans ses plus jeunes années, était peut-être un petit peu au-dessus de Gabriela. Et Gabriela a fait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour se hisser au niveau de Guillaume. Et aujourd'hui, les deux sont à un niveau extraordinaire. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et c'est ça aussi qui donne un équilibre à ce couple, une harmonie à ce couple fabuleuse. Et donc voilà, vraiment... Ils sont extraordinaires tous les deux et on va le voir ça encore lundi, j'en doute pas, mais c'est surtout le fait d'avoir patiné autant d'années ensemble qui leur permet d'avoir tous ces automatismes, d'être capable de se régler au millimètre près. Et on le sait, voilà, ils ont une relation qui est très forte, même s'ils ne vivent pas ensemble, ils ont une relation qui est très très forte en dehors de la glace et sur la glace, évidemment.
C'était magnifique. Aujourd'hui, ça le sera encore lundi. Réglez vos réveils à 2h15 avec Alban au commentaire aux côtés d'Marina Nissina, et Anne Boyer. En tout cas, nous, on sera là chez Eurosport pour suivre ça et on l'espère décrocher une nouvelle médaille d'or pour le clan français. On va passer à la deuxième partie et on va parler de la médaille de Quentin Fillon-Maillet. Une troisième médaille en trois courses. Quentin Fillon-Maillet est décidément l'athlète français de ce début des Jeux Olympiques. Après le relais mixte et l'individuel, il décroche une nouvelle médaille d'argent sur le sprint cette fois-ci. Pour en parler, on accueille notre consultante Florence Bavrel, championne olympique du sprint à Turin 2006. Ça tombe bien, on va parler du sprint. Flo, on a encore vu du bon Fillon-Maillet aujourd'hui.
Ouais, ben Quentin qui est toujours là hein, quand même. On a eu un petit peu peur avec cette première faute sur le coucher. Après, on a vu quand même que tout le monde était... Enfin, il y a beaucoup de fautes quand même globalement aujourd'hui. Donc, et plutôt une bonne fin de course pour Quentin. Donc, agréablement surprise du résultat. Hein. Même lui, avec un 9 sur 10, n'est pas forcément satisfait. Hein. On sent qu'il a envie de faire carton plein, pas satisfait sur le pas de tir, où il y avait déjà eu deux fautes sur l'individuel. Donc, il en manque encore un peu pour le satisfaire, mais c'est quand même encore une médaille d'argent.
Oui, c'est vrai qu'après le premier tir, après le coucher, moi, j'étais pas très optimiste pour Quentin Fillon-Maillet pour qu'il finisse sur le podium. D'abord parce que sur un sprint, on le sait, hein, voilà, sans faire 10 sur 10, et d'autant que quand on rate une balle sur le coucher, forcément, derrière, il faut impérativement faire le sans-faute sur le debout. Et même là, j'étais pas très très serein parce qu'il était moins rapide sur les skis qu'il ne l'avait été sur l'individuel. Il a dit d'ailleurs que les sensations étaient moins bonnes que mardi. Pour vous donner une idée, mardi, il a skié 30 secondes plus vite que Johannes Bö sur 20 km. Et aujourd'hui, il a perdu à peu près 25 secondes, je crois, sur 10 km par rapport à Johannes Bö. Donc, c'était un petit peu compliqué. Puis finalement, ça n'a pas bien tiré non plus derrière, notamment au debout où lui, il a fait 5 sur 5. Et petit à petit, on a vu Ponsulioma, Dole et tous ceux qui pouvaient éventuellement le menacer pour le podium, ben soit qui étaient moins rapides que lui, soit qui tiraient pas mieux, voire moins bien que lui. Et donc, ça s'est pas mal goupillé quand même pour Quentin à l'arrivée. Et ce qui est bien, je trouve, c'est qu'avec cette médaille d'argent, on sent qu'il n'est pas pleinement satisfait. Donc, il a trois courses, il a trois médailles, deux en argent, une en or. Et malgré tout, on sent que, Florence l'a dit, hein, c'est vrai que finalement, il ne tire pas parfaitement. Il s'en était déjà pas trop mal tiré d'être champion olympique avec un 18 sur 20 à l'indiv. Normalement, c'est trop juste. Et aujourd'hui, il fait deuxième avec un 9 sur 10. Donc, il s'en tire encore pas trop mal. Mais pourquoi ? Parce que d'abord, je pense qu'il faudra regarder les stats globales au tir. Mais
tout le monde tire mal.
C'est les jeux, donc il y a plus de tensions, il y a plus d'enjeux. Donc, je pense que globalement, ça tire un petit peu moins bien que sur certaines étapes de Coupe du Monde. Et puis sur les skis, même si aujourd'hui, il a été moins rapide que Johannes Bö, puisqu'ils ont fait une faute chacun, bah, même en étant moins bien que mardi, il était quand même encore plus rapide que 98% de ses adversaires. Donc, moi, j'aime bien le voir le fait qu'il n'est pas complètement satisfait et il sait qu'il peut faire mieux. Et bon, voilà, et comme il le dit maintenant, de toute façon, ses jeux sont déjà pleinement réussis. Donc, le reste ne peut être que du bonus. Il est très bien placé avant la poursuite. Donc, tout va bien. Et puis, la France a 7 médailles, dont 3 pour Quentin Fillon-Maillet. Donc, je pense qu'il serait malvenu de faire les difficiles avec lui.
Ouais. Deuxième derrière Johannes, 25 secondes derrière. Donc, effectivement, comme tu dis, Laurent, dans l'optique de la poursuite, c'est de très bon augure. Les trois premiers hein, ont fait chacun une faute. Donc, c'est vraiment sur les skis que ça s'est joué, si on peut dire. Simon, comment tu vois les choses pour Quentin ? On l'a entendu au micro de Géraldine Weber. Tu le disais, Laurent, il n'est pas satisfait. Il a du mal à se détendre. C'est de bon augure, ça, pour la suite.
Il a dit content, mais pas très content. Il a dit.
Voilà. Ouais.
Ça dit déjà beaucoup de qui il est devenu maintenant dans la hiérarchie mondiale. C'est-à-dire que en faisant des courses imparfaites comme ça, il est sur le podium, il peut accumuler les médailles. Il ne fait plus partie de la meute des outsiders plus qu'il y avait derrière Johannes Bö, Martin Fourcade, etc., qui avaient souvent besoin pour réaliser de gros résultats, de maximiser leurs compétences. Maintenant, il est avec Johannes Bö, ils sont tous les deux les deux meilleurs, les deux qui semblent un peu au-dessus du lot et qui peuvent avoir cette petite marge d'erreur. Effectivement, conserver cette envie de faire mieux, ça montre que maintenant, il veut être le patron. Et Martin Fourcade, qu'on a eu aussi dans la foulée de la course, disait qu'il y a un duel très alléchant qui s'annonce pour savoir qui va être le biathlète des Jeux Olympiques. Et ça peut être Johannes Bö, ça peut encore être Quentin Fillon-Maillet.
En tout cas, ce qui est sympa aussi, c'est cette envie de perfection, hein, d'aller chercher des tirs parfaits, ce qu'a pu faire Marte Olsby-Rosland hier. Donc, ça montre ses qualités de champion, hein, c'est d'aller chercher justement tout ce qu'il peut. Une médaille d'argent quand même, et il n'est pas satisfait. Donc, c'est vrai qu'il ne se contente pas de ça, et ça, on en est content. Et ça veut dire que voilà, il ne s'est pas arrêté à sa médaille d'or de l'individuel. Donc, ça en dit beaucoup pour la suite et en tout cas ce qu'il a envie d'aller chercher. Et on est peut-être un peu dur quand on dit qu'il s'en tire bien, parce que finalement aujourd'hui et sur l'individuel, et ben c'était des courses, même si elles ne sont pas pleines sur le pas de tir, c'est ce qui suffisait pour aller chercher ses médailles quand même. Donc on voit que c'est quand même même si le pas de tir là est moins vanté, on voit que c'est compliqué avec l'altitude, hein. C'est pas, globalement ça ne fait pas des beaux tirs et il faut se mobiliser à chaque fois, aller se concentrer sur chaque balle. On voit que ça coûte énormément à tous les athlètes et il est encore présent hein, sur ce sprint. Donc, Quentin, voilà, c'est l'homme avec Johannes de ce début de JO, en tout cas.
Oui, c'est sûr qu'ils ont vraiment une marche par rapport à la concurrence parce que tous les deux, ils font des jeux quasi similaires. Ils avaient fait tous les deux deux fautes sur l'indive, 18 sur 20. Ils ont tous les deux fait une faute aujourd'hui sur le sprint. Donc, ils ouvrent un tout petit peu la porte, mais... personne s'y engouffre et il faut être parfait pour s'engouffrer dans cette porte parce qu'ils ont vraiment de la marge sur la concurrence. Donc un coup c'est Johannes qui est plus rapide sur les skis, c'est lui qui gagne, un coup c'est Quentin et s'ils se mettent à tirer quasi à la perfection, ça va vraiment devenir, c'est déjà quasiment impossible de les devancer, mais pour la concurrence ça va devenir terrible quoi.
Si on se penche sur les autres tricolores dans ce sprint, Emilia Jacquelin, il y a un peu de mieux, même si ce n'est pas parfait, mais 9e à 1,05, Fabien Claude, 21e à 1,41 et Simon Détieux, 24e à 1,44. Les trois n'ont pas hypothéqué leur chance dans l'optique de la poursuite. On reviendra tout à l'heure sur les filles, où c'est plus compliqué, mais Flo, on est en droit d'attendre un grand Emilien Jacquelin pour la poursuite.
Alors c'est vrai qu'on est aux Jeux Olympiques, hein, on parle de podium, mais Emilien, là, il revient de loin quand même. Donc moi, je suis contente là, qu'il a réussi à se remobiliser. On l'a vu avec le sourire, il reprend du plaisir hein, à courir. Et on voit qu'il était vraiment dans le dur hein, après le relais mixte, même s'il y a eu la médaille, et après l'individuel. Donc voilà, il a refait parler son naturel et ça fait du bien de le voir devant. Il est à 1,09 sur la poursuite.
Donc, 1,05.
1,05, oui, 1,05, c'est vrai. Il revient dans le coup quand même, il revient dans le match. Donc on sait, hein, tout peut se produire sur une poursuite. Allez, on a toujours, comme on disait tout à l'heure, ce duo de tête là, qui a l'air intouchable. Mais bon, hein, sur ce pas de tir difficile où il y a beaucoup d'erreurs sur le pas de tir... Emilien, il sait être surprenant, donc ouais, ça fait du bien de le revoir. Et puis, je pense pas qu'il a dit son dernier mot. Hein. Il y avait ce petit sourire là dans l'interview.
Il a déclaré au micro de Géraldine Weber, il a dit « J'aime les poursuites, tout le monde le sait. » Simon, tu le vois, qu'est-ce que tu penses de ce « renouveau » entre guillemets d'Emilien Jacquelin sur ce sprint?
Déjà, il aime les poursuites, mais les poursuites l'aiment bien aussi. Il est double champion du monde en titre dans cette spécialité. Je pense évidemment qu'il est, il est dans le coup. Il est à 25 secondes seulement du podium, si on parle de la troisième place, au-delà d'être à une minute de la gagne potentiellement. Donc, c'est une balle. Et ce que j'aime beaucoup chez Emilien Jacquelin, j'avais pu discuter avec lui lorsqu'il était leader de la Coupe du Monde en fin d'année dernière, donc durant cette saison, c'est sa transparence sur la dualité interne qu'il y a chez lui entre essayer de progresser, devenir plus complet, être capable de poser ses tirs et laisser pleinement parler son naturel. L'impression qu'on a, c'est qu'il faut quand même que le naturel garde une grande part dans ses tirs. Mais il estime qu'il faut déplacer un peu le curseur et je trouve ça très, très intéressant de sa part de le partager comme ça, d'être très, très ouvert sur ce sujet. Et là, quand il arrive un peu à être de nouveau dans la détente et dans ce qu'il sait faire de mieux, on voit à quel point il peut être exceptionnel. Donc, il est dans un cheminement assez constant qui fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre avec lui, mais tant mieux, on est d'autant plus impatient de suivre la poursuite.
C'est vrai que je te rejoins, voilà, on sent ce questionnement toujours entre est-ce que je dois être naturel, est-ce que je dois continuer à travailler ce que je travaille, à savoir être un peu plus patient, à plus, comment dire, voilà,
s'appliquer,
assurer ses balles, voilà. Et on sent que c'est encore pas acquis, ça, voilà, comme tu dis, c'est en chemin, et il est un peu perdu, il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre, presque, il faut qu'il trouve entre les deux, et à chaque course, s'adapter, c'est vraiment comme disait Paulo Giacchino, hein, que j'avais eu aussi en entraîneur, c'est l'adaptation, c'est primordial en biathlon, donc il y a des courses, il faudra qu'il aille chercher dans ses ressources où il sait être naturel et ça reviendra automatiquement, et d'autres courses où il faudra être plus patient, et suivant aussi notre état physique, suivant la pression, les formats de course, etc., il faudra qu'il sache piocher dans tous ses registres s'il veut être complet, et forcément, on ne peut pas dire « aujourd'hui je fais ça, un autre jour je fais ça », c'est suivant les courses, suivant notre état, et ça, voilà, il y a encore à progresser dans ce domaine-là, mais en tout cas, il y travaille et aujourd'hui, c'était naturel qu'à parler, ça lui a fait du bien, mais il n'a pas fait le plat non plus. Donc,
voilà, Laurent, il a quand même changé les choses. Il a changé les choses, il nous l'a dit au micro de Géraldine Weber. Il a changé les choses pour faire les choses à sa manière.
Et oui, à long terme, je ne sais pas s'il s'éloignera et dans quelle mesure il s'éloignera de ce naturel. En tout cas, sur les Jeux, je suis à peu près sûr qu'il va rester dans cette optique-là parce que le bilan qu'il peut faire de ses trois premières sorties, c'est que quand il s'éloigne de ce naturel, ça ne va pas du tout. Donc, l'autre jour, quand on discutait avec Loïs Haber, il nous avait dit, après l'individuel, que ce qui l'inquiétait par rapport à ça, c'est lui, il était persuadé qu'il fallait qu'il revienne, en tout cas là, dans ses Jeux, à ce côté très instinctif qu'il peut avoir sur le pas de tir, et notamment sur le tir debout. Il disait le problème, c'est que refaire ce switch là en l'espace de 3-4 jours, ça va être très compliqué. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il l'a fait aujourd'hui. Alors, il fait une faute au coucher, il rate sa première balle au debout. Là, on a craint, honnêtement, je pense tous, une catastrophe. Et derrière, il est quand même resté, il a gardé son fil, il a tiré très vite et il a enchaîné les 4 balles. Et c'était vraiment très important parce que autant pour la poursuite, pour le sprint, bon, avec 2 fautes, c'était mort. Mais derrière, il y avait la poursuite. Maintenant, il va rentrer dans les 2 courses qu'il préfère en individuel, la poursuite et la mastart, qui sont des pas tant des courses où on se bat contre soi-même que contre les autres. Et c'est ça qu'il aime. Il aime cette bagarre-là. Donc, moi, je suis quand même, honnêtement, oui, c'est une 9e place. Ce n'est pas un résultat extraordinaire, mais je crois que c'est Florence tout à l'heure qui disait qu'il revenait de loin. Oui, je trouve qu'il revient de très, très loin. Et il était très bien sur les skis aujourd'hui. Il était vraiment derrière Johannes Bö. De toute façon, on avait une espèce de meute française. Ils étaient tous à peu près dans les mêmes temps, même si Emilien a un petit peu coincé sur la fin. Mais peut-être que s'il a vu la médaille à jouer, il aurait pu s'arracher un petit peu plus aussi. On ne saura jamais. Mais donc oui, moi, je suis plutôt rassuré par ce qu'on a vu d'Emilien Jacquelin et surtout ce tir debout que j'ai trouvé. Voilà, c'était du Jacquelin. Et de toute façon, à mon avis, hein, il ne faut pas se leurrer. Demain, sur la poursuite, puis sur la mastart, éventuellement le relais, c'est ce Jacquelin-là, ce n'est pas facile à dire, qu'il faudra voir pour le meilleur ou pour le pire. Mais je pense qu'il a, plus à perdre pour moi sur ces Jeux, à poser son tir, à trop réfléchir comme il l'a fait notamment lors de l'individuel, qu'à rester lui-même. Donc, à long terme, je n'en sais rien, mais à très court terme, pour parler de Pékin, je pense qu'il faut qu'il fasse du Jacquelin pour le meilleur ou pour le pire. Mais le meilleur peut en sortir, alors que ce qu'il a fait lors des deux premières courses, à mon avis, le meilleur ne pourra pas arriver pour lui.
Mais en tout cas, ce qu'il a commencé à travailler n'était pas achevé. Donc, forcément, ça ne fonctionne pas encore, j'ai envie de dire. Donc, c'est sûr que quand il reprend son naturel, ça paye un peu plus. Mais c'est vrai qu'à long terme, moi, je pense qu'il a tout intérêt à continuer le travail qu'il avait fait, surtout s'il veut jouer un général. Là, c'est sûr qu'à court terme, là, il y a l'urgence des Jeux Olympiques. Oui. S'il veut être performant maintenant, bien sûr que son naturel sera plus valorisant.
Il n'est pas venu aux Jeux pour préparer le Globe 2022 ou 2023 ou 2024.
Voilà, c'est ça. Mais c'est, comme tu dis, c'est dur de switcher d'une méthode à une autre. Mais en tout cas, il a pris le travail par le bon bout. Et forcément, là, cette année, ce n'est pas facile de jouer sur les deux tableaux, d'utiliser ces deux compétences-là. Donc, en tout cas, il a mis le doigt sur quelque chose. Il faut qu'il trouve le juste équilibre entre son instinct à lui et le travail qui reste à faire pour poser son tir. Hein. C'est vrai que ce tir d'instinct, il fait des belles courses, mais aussi c'est ce qui lui en fait perdre aussi. Donc, il sait qu'il a gagné de ce côté-là aussi. Donc, encore un gros boulot, un gros chantier.
En tout cas, Laurent, hier, tu disais qu'il jouait à qui tout double dans ce sprint. On est plutôt là sur du positif après cette course et dans l'optique de la poursuite qui aura lieu, hein, on le rappelle, dimanche. Les deux poursuites, hommes et femmes, se dérouleront dimanche à suivre sur les antennes d'Eurosport. Un petit mot sur la poursuite femme. On en parlait après le sprint. Ça va être compliqué parce qu'à part Anaïs Bescon qui est encore dans le coup, ça ne va pas être simple d'aller chercher une médaille et notamment Roseland qui semble vraiment intouchable.
Oui, bah c'est sûr que si elle continue sur sa lancée, là, en étant impeccable sur le pas de tir et la plus rapide, elle va être intouchable et ce sera impossible d'aller la chercher. Oui, pour les Français, ça va être compliqué, hein, on va pas se leurrer, mis à part pour Anaïs Bescon quand même, qui peut aller chercher quelque chose, hein, le podium est pas si loin, et je crois qu'elle était un peu dans la même configuration de course quand elle allait chercher le bronze sur Pyeongchang. Je l'ai eu un petit peu, j'ai un peu échangé avec elle, hein, elle est bien sûr remontée à bloc, on sait que sur les grands événements, elle est capable en tout cas de sublimer aussi, donc c'est une fille aussi qui a de l'expérience. Sur ce pas de tir, on voit qu'il y a beaucoup de filles qui passent à la trappe, il y a beaucoup de pénalités, donc c'est pas débile de dire que la médaille est faisable quand même, quoi.
À une trentaine de secondes, le podium est à une trentaine de secondes.
Surtout que c'est pas grand chose, c'est pas grand chose.
Voilà, et d'autant plus qu'on a vraiment Holzbu, enfin Roseland qui est devant, mais derrière il n'y a pas d'autres filles qui est là qu'on sent vraiment aussi aller chercher ce podium. Donc Anaïs a toutes ses chances. Malheureusement pour les autres filles, qu'est-ce qu'elles vont jouer le podium, non. Donc par contre, comme disait Julia dans son interview, elle était déjà allée à y retravailler certaines choses, aller chercher de la confiance pour travailler les prochaines courses. Il y a quand même encore les relais, les masters. Les relais, elles sont quand même favorites, les Françaises. Hein. Elles sont en tête du classement. Donc, pour les autres filles, on n'aura pas Anaïs Chevalier-Boucher. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal qu'elles ne prennent pas le départ de cette poursuite. Si elle était 50, 55e, elle se serait peut-être posé la question. Mais là, elle va carrément faire du repos, faire du jus, une bonne coupure. On sait qu'Anaïs, elle sait faire. Hein. C'est une fille qui est capable de se reprendre et d'être encore présente. Elle l'a montré sur l'individuel, une fille avec un gros mental. Donc, si c'est dans ses objectifs, pour la suite, elle sera là. Après, c'est Justine aussi. Hein. On est un peu déçus, par contre, pour Justine, qu'on ne retrouve pas sur les skis, notamment. Donc, ça va être difficile pour elle. Et on va aller rechercher un peu de positif sur cette poursuite. Ce serait l'objectif pour elle.
Elles vont préparer le relais, quasiment, Justine et Julia, demain, non ? Presque.
Ouais, tu as raison, c'est là qu'il faut aller chercher quelque chose et se remettre dans de bonnes dispositions pour ce relais, hein, parce que revenir sans médaille du relais, là, ce serait plus dur quand même. Hein, elles sont vraiment attendues, donc j'espère que ça va le faire et tu dis qu'elles vont réussir à travailler ces points-là, en tout cas.
Simon, tu voulais ajouter un mot sur Anaïs Bescon ?
Oui, je disais que l'exercice à quatre tirs, à mon avis, était d'autant plus propice pour elle. Elle pouvait être capable, par sa régularité au tir, de faire la différence là-dessus, où il y a certains profils d'athlètes, de biathlètes en l'occurrence, pour qui un sprint peut mieux convenir, très fort ou très forte sur les skis. Et le jour où ça passe au tir, ça peut faire jackpot. Anaïs Bescon, c'est plus ces courses-là avec un effort lisse et quatre passages sur le pas de tir qui lui conviennent, à mon avis. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autant plus de raisons d'espérer.
Et globalement, il faudra mieux tirer. C'est pas vrai que pour les Français, hein, mais on a regardé les stats du sprint, au cumul du sprint dames et du sprint messieurs. Donc, 4 Françaises, 4 Français, 80 balles à lâcher et 19 fautes. Ça fait 77% de réussite au tir. C'est pas très, très bon, on va dire. Il n'y a eu aucun 10 sur 10 sur les 8, sur les 2 sprints. Donc, il faudra faire un petit peu mieux et c'est vrai pour tout le monde dans l'absolu. C'est vrai pour un Quentin Fillon-Maillet qui, même s'il n'a pas besoin de ça pour avoir une médaille d'or, une médaille d'argent, il sait que s'il tire encore mieux, ça peut être presque l'or garanti, ou pas loin. Et pour les autres, s'ils veulent jouer le podium, il faudra tirer mieux que ce qu'ils n'ont fait ces 2 derniers jours.
Oui, c'est ça. C'est que l'athlète qui sort le plein, là, il fait vraiment la différence. On regardait tout à l'heure le nombre de 0-0 sur le sprint, il y en avait 5
aujourd'hui sur 94 dossards, il y a eu 5 10 sur 10, ce qui est quand même pas
voilà beaucoup, donc hein. Celui qui met toutes les balles, forcément il va faire la différence et ça c'est sûr. Et je reviens aussi sur Anaïs, hein, aussi elle était quand même frustrée de ce relais mix, donc je pense qu'ils sont allés chercher une médaille, elle aussi elle a vraiment envie d'aller pas se venger, mais en tout cas aller chercher elle aussi sa médaille.
Ce relais mix, d'ailleurs, c'était un ressort de motivation quand même exceptionnel, dans le sens où il y avait à la fois la satisfaction de la médaille et le côté « on ne reviendra pas sans rien », et pour beaucoup, la pointe de frustration de ne pas avoir réalisé une course parfaite. Donc, ça permet de jouer sur deux leviers de motivation, et ce qui est idéal pour la suite de la compétition.
C'est à suivre, 10h samedi pour la poursuite femme et 11h45 pour la poursuite homme. On sera arrivé devant nos écrans, comme vous tous qui nous écoutez, dans l'heure olympique, j'en suis sûr. On va passer, si vous le voulez bien, au chiffre du jour. Le chiffre du jour, aujourd'hui, il concerne le géant qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Le chiffre, c'est 3, parce que les 3 derniers champions olympiques de géant étaient champions du monde en titre. Et le champion du monde en titre, il est français, c'est Mathieu Febvre. Alors, est-ce que cette tradition, si on peut dire, va se poursuivre? On l'espère, même si ça ne sera pas facile. Mathieu Febvre, cette saison, c'est seulement une 5e place à Adelboden comme meilleur résultat. Simon, comment tu vois le géant se profiler?
Alors, c'est un bel augure pour lui, mais effectivement, sur les résultats de la saison, il ne s'avancera pas en favori. Ce qu'il faut remettre comme info en perspective, etc., c'est qu'il a souvent fait de bonnes premières manches. Donc, on peut y voir un bon point ou un point négatif dans son incapacité à confirmer dans les deuxièmes manches. Mais ce n'est pas comme s'il avait eu des mauvaises sensations tout au long de la saison. Il a parfois été en position de gagner. Souvent, lors de ses seconds runs, ça s'est mal passé. Mais on sent au moins qu'il a en lui quand même il a en lui le ski qu'il faut pour être performant sur ce géant. Je pense que ce sera aussi Odermatt qui sera très à suivre, parce que c'est vraiment la star montante du circuit. Pour avoir été à Kitzbühel, c'est assez impressionnant, pas l'effervescence qu'il y a autour de lui, mais le côté star qui dégage, même la nécessité pour lui de répondre toujours dans la langue de la télévision qui l'interroge. On sent que c'est plus qu'un skieur maintenant, c'est à la fois le meilleur skieur depuis le début de la saison, mais aussi quasiment un produit marketing, et cette ascension assez fulgurante doit être confirmée avec une médaille olympique. Ce serait une énorme déception pour Odermatt de repartir bredouille de ces Jeux.
Et pour l'instant, il a du mal quand même.
Donc, et en plus, voilà, pour l'instant, il a du mal à l'assumer, ce statut. En Super G, c'était bien parti jusqu'à ce qu'il sorte. La descente, cette année, on était impressionnés par sa polyvalence, sa capacité justement à jouer avec les meilleurs sur les descentes les plus réputées du circuit, et il n'y a pas eu de médaille non plus. Donc, si ça ne passe pas en géant, on se posera des questions qui seront à relativiser avec son jeune âge et l'avenir qu'il a devant lui. Mais Odermatt jouera aussi très gros sur cette compétition.
Quand même remporté 4 des 5 géants cette saison. Le seul qui a remporté un autre géant, c'est Henrik Kristoffersen. Il y a quand même des certitudes, Laurent.
Rodermat, oui.
Sur le géant.
Oui, c'est... il a été archi-dominateur cette année dans cette discipline. Maintenant, les Jeux, c'est un contexte différent. Et Simon l'a dit, c'est peut-être compliqué pour un skieur qui est encore jeune de devoir assumer tout ça. Tout le monde dit que c'est le meilleur skieur du monde. Et c'est vrai qu'il était archi-favori du géant, mais il avait vraiment deux, trois chances de médaille d'or, en tout cas deux énormes chances de médaille d'or. Pour l'instant, c'est compliqué pour lui, mais il va être vraiment intéressant ce géant, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de skieurs qui vont presque jouer leur jeu à qui tout double maintenant. Donc, ça va être très tendu, ça va être très intéressant. Et pour Mathieu Febvre, il faudrait qu'il arrive à refaire une première manche comme il avait fait, je crois que c'était à Altabadia, il me semble, dans le premier géant d'Altabadia, où il était, il avait dominé, il avait terminé en tête, et je crois que derrière sa seconde manche avait été catastrophique. Il termine, je ne sais même pas s'il finit dans les 15, je ne sais pas sinon si tu te souviens, mais c'était vraiment le jour et la nuit entre ces deux manches-là. Maintenant, ça passera d'abord quand même par une grosse première manche. Et Mathieu Febvre, pour le coup, c'est plutôt un homme de grand rendez-vous, donc on peut espérer pour lui, mais pour moi, médaille d'or, ce serait une divine surprise pour lui. Mmh. Et un podium pour lui ou pour Alexis Pinturault serait déjà quelque chose d'extraordinaire.
J'allais y venir, on ne peut pas ne pas parler d'Alexis Pinturault. Le géant, c'est sa discipline. Alors même s'il a la tête un peu à l'envers hein, depuis le début des Jeux, c'est là où il peut se refaire. Flo, tu le sens comment toi Alexis sur le géant? Est-ce que c'est la course qui peut lui permettre de peut-être pas décrocher l'or, mais décrocher un podium?
Ouais, bah en tout cas, c'est vrai que ouais, on a été déçus pour lui. Hein. En plus, cette chute là où il s'est posé plein de questions sur la suite des JO, donc déjà qu'il soit encore là, encore en course, c'est déjà positif. Mais c'est vrai qu'on voilà, un podium ce serait bien, et pour l'alpin français aussi, hein, on aimerait bien avoir une petite médaille quand même.
Messieurs, les dernières infos sont plutôt rassurantes sur l'état du coude ou de l'épaule de Pintu. Simon.
Oui, en tout cas, les doutes sur sa participation semblent être levés. À quel point il sera handicapé, je ne sais pas, mais au moins, on a évité, a priori, ce forfait. C'est difficile avec Alexis Pinturault, qui est, lui aussi, il est assez transparent sur les doutes qu'il a eu cette saison dans ses interviews, comme tu disais, et c'était très vrai, je trouve, qu'il n'avait pas été habitué à douter. Il découvre ça, en fait, parce que même s'il n'a pas toujours été le skieur dominant, il a eu le gros globe dont il est tenant du titre plutôt sur la fin de sa carrière, mais il a toujours été quand même très fort. Il n'a pas traversé de longues périodes de disette. Donc, il découvre ça sur le tard, plus la pression, plus la pression justement qui est retombée après cet accomplissement du gros globe de cristal. Il y a tout ça qui se mélange en lui. Et ça donne un cocktail qui fait une saison assez décevante et que les Jeux peuvent sauver.
On l'espère. Ce sera à suivre à partir de 3h15 pour la première manche, 6h45 pour la deuxième, évidemment sur Eurosport. Merci de votre participation à l'heure olympique. C'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode avec, comme tous les jours, on l'espère, de nouvelles médailles. Allez, salut!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.